Europe 1.
T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Clark Gable.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits jusqu'à la 13e génération de mon âme.
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc,
bonjour.
David, bonjour à vous.
Bonjour.
Et bonjour à celui qui est avec nous également aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour tout le monde.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois dames qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point commun. Aujourd'hui... Oui, 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 elles sont tombées amoureuses. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi, mais amoureuses de leur élève. À commencer par la philosophe devenue icône du féminisme, Simone de Beauvoir. Si elle a vécu un amour profond avec Jean-Paul Sartre durant toute sa vie, jusqu'à ce que la mort les sépare, elle s'est aussi aventurée auprès de quelques-unes de ses élèves, Olga, Bianca ou encore Nathalie, qui lui vaudra d'être exclue un temps de l'éducation nationale. Puis je vous raconte celle qui a laissé son nom à une triste affaire, Gabrielle Russier. Ou l'histoire devenue fait divers d'une professeure de Marseille tombée amoureuse en plein mouvement étudiant de mai 68 de son élève avant que les parents et la justice ne s'en mêlent. Et c'est vous Jean-Luc qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième professeur du jour tombée amoureuse de son élève elle aussi.
Oui, Marie-Ké Le Tourneau. Une Américaine, comme son nom ne l'indique pas, de 34 ans, et elle était à l'époque tombée amoureuse d'un de ses élèves âgés de 12 ans.
Oui.
Ah oui, oui, l'histoire a défrayé la chronique, comme on dit, il y a quelques années. Il faut dire qu'il y a tous les ingrédients réunis pour tenir l'Amérique en haleine. Accusation de pédophilie, hein, passage en prison, mariage, bébé, divorce. On peut déjà prévoir en régie la musique de fête entre l'accusé. voilà, exactement, celle-là.
Alors, eux nous tiennent en haleine aussi, en parlant de leur sujet sans trop en dire, pour nous obliger à les écouter tout à l'heure dans l'émission. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Keltenbach. Clémentine, de qui nous parlez-vous ?
Eh bien, je vous emmène à Venise, à l'hiver 1834, où nous allons retrouver Georges Sand et Musset, qui sont amants, et Georges Sand va tomber malade et amoureuse, elle aussi, de son médecin qu'elle a surnommé le stupide Pagello.
Elle lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est David Castello-Lopez.
Oui.
Je doute que ce soit son obsession, mais de quoi vous nous parlez cet après-midi ?
Du poulet industriel.
Non.
Oui, c'est-à-dire que du moment où on est passé de genre de quelques poulets comme ça, à bam, des grands endroits avec plein de poulets, ce qui est à la fois très triste, mais qui a quand même donné du poulet à plein de gens.
Oui.
Ça s'est fait au détriment des poulets, de leur vie.
Eh bien, une pensée pour les poulets. Les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais ailleurs quelle époque, mais ailleurs quelle époque.
Oui, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au 18e siècle. On parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, et du mets le plus consommé au monde.
Oui, le mets non seulement le plus consommé au monde, mais aussi le plus populaire, le plus hashtagué, le plus présent sur les réseaux sociaux, d'après vous.
La pizza.
L'avocado toast.
Non, c'est la pizza.
La pizza.
Oui, elle est toujours très
18e
largement.
18e siècle. Mais ailleurs quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40, j'en salive d'avance.
Et dans trois quarts d'heure, ce sera aussi le quiz historique Burn to Be Alive. Une trentaine d'historiens se relaient pour la rédaction de questions suffisamment pointues pour que Stéphane et Clémentine ne connaissent pas les réponses. Et parfois, je prends des questions niveau CM2 et ça passe.
Mais non, mais quel imposteur. Pour l'heure, restez bien avec nous, je vous raconte notre première dame du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
On ne naît pas femme, on le devient. Elle n'est pas née icône du féminisme, mais elle l'est devenue et surtout restée. On connaît tous son livre phare, Le Deuxième Sexe, mais aussi sa relation avec un autre philosophe, Jean-Paul Sartre. Ce que l'on sait moins, c'est que leur union était libre et que la professeure qu'elle était avait des amantes parmi ses propres élèves. Je vous raconte maintenant Simone de Beauvoir, une femme peut-être encore plus libre qu'on ne le pensait. Si mon histoire n'est pas banale, cela tient sans doute à la personnalité de deux de ses protagonistes, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Ensemble, nous formions un trio, du moins, c'est ainsi qu'on m'avait présenté les choses. Je me rends compte à présent que j'ai été victime des impulsions donjuanesques de Sartre et de la protection ambivalente et louche que leur accordait le castor. J'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeune fille une chair fraîche à laquelle elle goûtait, avant de la refiler, ou faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. Voilà ce qu'écrit l'une des élèves et amantes de Simone de Beauvoir, dite le castor, dans ses mémoires d'une jeune fille dérangée. Oui, n'en déplaise à certains, l'auteur du deuxième sexe a mené une vie on ne peut plus libre, et plusieurs de ses élèves ont pu en attester. Simone de Beauvoir est née en juillet 1908 dans un milieu religieux et mondain du Paris chic de la Belle Époque. Une époque moins belle pour les femmes qui n'ont ni le droit de vote ni l'autonomie financière. À 7 ans, alors qu'elle joue au jardin du Luxembourg, une dame la félicite pour ses jolis petits mollets. En guise de réponse, Simone fronce les sourcils, croise les bras et lui répond « Je ne suis pas un corps, je suis moi ». Voilà qui est dit. À 15 ans, Simone perd la foi, mais elle rencontre Zaza. Sa nouvelle meilleure amie devient aussi son modèle. Elle se moque des conventions sociales, de sa mère, et se montre aussi insolente qu'intelligente. Ses parents entravent fortement son envie de liberté quand ils refusent qu'elle épouse un étudiant sans le sou. Folle de chagrin, Zaza tombe malade et meurt à 21 ans. Ce drame marque un tournant dans la vie de Simone de Beauvoir. Elle fustige la bourgeoisie qui a tué son amie d'enfance et refuse d'étouffer ses rêves. Femme au foyer, jamais. Elle prend alors son destin en main. En 1925, Beauvoir s'inscrit à la Sorbonne, pas pour une licence, non, pour 8. Elle veut tout savoir, tout. Mais sa passion pour la philo l'emporte, elle veut passer l'agrégation. Ses parents refusent, elle fait alors une grève de la parole. Son silence pèse, ils finissent par céder. Il est en revanche impossible pour la jeune femme de passer le concours d'entrée à l'école normale supérieure qui est interdite aux femmes. Mais rien ne l'empêche de le préparer avec les normaliens. Les garçons sont impressionnés par ce petit bout de femme passionnée et son travail acharné. Il la surnomme Beaver, le castor, parce qu'il vit en bande et a l'esprit constructeur comme elle. Un des normaliens fait chavirer son cœur. Il a la réputation d'être le plus laid, le plus sale, le plus brillant et le plus drôle. Il s'appelle Jean-Paul Sartre. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ces mots de Montaigne à la Boétie pourraient s'appliquer à Sartre et Beauvoir. Sartre, c'est le double en qui elle se retrouve. À l'amour s'ajoute une fusion intellectuelle. Jean-Paul sort premier de l'agrégation, Simone deuxième. Les voilà prêts à enseigner. Pour éviter que leurs mutations respectives les séparent, Sartre propose un mariage. La réponse est non. Céder au modèle bourgeois, il n'en est pas question. En 1931, Sartre est au Havre. Beauvoir est à Marseille. Mais dès l'année suivante, elle est nommée à Rouen. Entre Rouen, Le Havre et Paris, se met en place ce qu'on va appeler la petite famille. Sartre et Beauvoir s'aiment d'un amour nécessaire, diront-ils, mais ils forment un couple libre, s'autorisant à côté des amours contingentes, à la condition de ne jamais se mentir. Ils fréquentent leurs élèves, filles et garçons confondus, car l'on aime un être et non un sexe. Il y a Jacques-Laurent Bost, élève de Sartre, et Olga Kosakiewicz, élève de Beauvoir. Dans son premier roman, L'Invité, publié chez Gallimard en 1943, Beauvoir raconte leur ménage à trois avec Olga. Cette même année, Olga épouse Bost. Les deux philosophes en sont les témoins. En 1937, Simone de Beauvoir enseigne la philosophie au lycée Molière à Paris et débute une relation avec une autre de ses élèves. Elle a 31 ans, elle 17. Elle s'appelle Bianca Binnenfeld. Simone raconte à Sartre une nuit passée avec sa désormais amante. On s'est réveillé vers 8h30 et comme un homme repu, j'ai discrètement éludé des caresses. Je voulais prendre mon petit déjeuner et travailler. Le duo se transforme alors en trio. Mais Sartre rompt brutalement avec Bianca en février 1940. Beauvoir fait de même à la fin de l'année, mais garde une bonne relation avec son ancien élève. C'est à la fin du siècle quand Bianca découvrira la façon dont Simone parlait d'elle à Sartre dans sa correspondance, nuit pathétique ou encore écurante comme du foie gras et pas de la meilleure qualité, qu'elle écrira, se sentant trahie, ses mémoires d'une jeune fille dérangée, dont je vous citais un extrait tout à l'heure. Et puis, il y a Nathalie. Nathalie Sorokin, une élève rebelle dont le rire résonne dans les couloirs du lycée Molière. Une créature fascinante, insaisissable pour Simone de Beauvoir, qui va vite la surnommer « mon petit tyran ». Aux côtés des existentialistes et de Camus, Giacometti, Picasso ou Hemingway, Sartre, Beauvoir et Sorokine affrontent la guerre, l'occupation et se battent pour la liberté depuis Saint-Germain-des-Prés. La mère de Nathalie porte plainte pour, je cite, « excitation de mineurs à la débauche » en 1943 et le régime de Vichy exclut Simone de Beauvoir de l'éducation nationale. Elle est finalement réintégrée à la libération et Beauvoir aura Nathalie pour amante pendant 30 longues années. La prof immortalise même son élève sous les traits de Nadine, héroïne des mandarins pour lequel Simone de Beauvoir obtiendra le prix Goncourt. Avec Sartre, il fonde après la guerre en 1945 la revue Les Temps modernes. Sa renommée est telle qu'elle est invitée aux États-Unis. Là-bas, Simone de Beauvoir étoffe son combat et fait un parallèle entre le racisme et le sexisme. À Chicago, elle tombe une nouvelle fois amoureuse. Cette fois, ce n'est pas une élève, mais un écrivain communiste qui fait chavirer le cœur de Simone de Beauvoir, Nelson Algren. Elle l'aime follement, mais elle ne peut pas vivre avec lui. Sa place est auprès de Sartre. Depuis son retour des États-Unis, la philosophe veut enfin mener à bien son projet d'écrire sur sa vie. Pour cela, Sartre lui dit qu'il faut d'abord comprendre ce qu'est une femme. Vaste sujet encore en friche. Pendant 2 ans, Simone de Beauvoir va lire tout ce qui existe sur son sexe, aussi bien en histoire qu'en biologie et en anthropologie, en passant par la psychanalyse. Le résultat ? Un livre encyclopédique qui déconstruit les mythes véhiculés sur les femmes depuis la nuit des temps. Et un constat, on ne naît pas femme, on le devient.
C'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Interdit par le Vatican, le livre fait polémique, à droite comme à gauche. Simone de Beauvoir est présentée comme une dangereuse révolutionnaire, mais la révolution est en marche. Dès la première semaine, le deuxième sexe se vend à 30 000 exemplaires. Bientôt, on parlera en millions et le livre sera traduit dans plus de 120 langues. Plus qu'une star, son auteur est une icône de la lutte pour les droits des femmes. En 1971, Beauvoir signe dans le Nouvel Observateur le manifeste des 343 salopes pour le droit à l'avortement, puis fonde avec Gisèle Halimi l'association Choisir la cause des femmes. Les femmes, Simone de Beauvoir les a toujours aidées. Elle les a aimées aussi. Si Olga Kosakiewicz, Bianca Binnenfeld ou Nathalie Sorokine ont partagé une partie de sa vie, son pilier, son double, celui qu'elle n'a jamais quitté, c'est Sartre. Quand il meurt, le 14 avril 1980, le choc est si brutal qu'elle n'imagine pas y survivre. Elle écrira « Sa mort nous sépare, ma mort ne nous réunira pas, c'est ainsi. Il est déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. » Simone de Beauvoir s'éteindra 6 ans jour pour jour après lui, le 14 avril 1986, à l'âge de 78 ans. Depuis, ce sont toutes les femmes qui puisent chez elles la force de continuer le combat. La préciosité de ses conseils et de ses mises en garde ne faiblit pas. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, prévenait-elle.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Simone de Beauvoir avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une journaliste qui raconte l'idylle que Beauvoir a vécue avec l'une de ses élèves dans un livre. Bonjour Julie Duchâtel.
Bonjour Stéphane.
Julie, vous publiez en effet Nathalie Sorokine, La passion folle. Dès les premières pages, on comprend que Simone de Beauvoir suscitait une grande admiration chez ses élèves. Que dégageait-elle et quel professeur était-elle finalement ?
Elle était une professeure qui fascinait ses élèves. Son public de jeunes filles l'a trouvée très belle. Elles avaient très envie de tomber dans sa classe parce qu'elle était avant tout une professeure très dynamique, qui était connue pour son débit de parole inarrêtable. Elle avait une voix rauque assez difficile à entendre et c'était un cours pour lequel il fallait quand même se concentrer. C'était un cours difficile. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ses élèves avaient comme un comportement de groupie. Elles l'attendaient devant le portail du lycée Molière. Chaque jour, elles n'avaient qu'une idée, c'était être choisies pour aller boire un café avec elle, pour pouvoir discuter, pour la raccompagner jusqu'au métro. Et oui, c'était, enfin, dans mon livre, je vais jusqu'à parler de Beauvoir Mania.
Mais est-ce que ça n'est pas justement parce que Nathalie Sorokine, elle n'est pas complètement fascinée par sa professeure, elle trouve ses copines un peu ridicules d'être dans cet état de béatitude admirative. Est-ce que ça n'est pas justement pour ça qu'elle a tapé dans l'œil à Simone de Beauvoir? Et comment définiriez-vous la relation qui les unissait? C'était une vraie passion amoureuse?
Oui, alors Nathalie Sorokine est clairement l'élève qui dit non. Elle s'oppose frontalement, mais je pense que c'était surtout une stratégie pour se faire remarquer, puisqu'elle essaie d'être différente et adopte l'attitude inverse. Ce qui est certain, c'est que c'est Nathalie Sorokine qui a choisi d'entrer dans la vie de Simone de Beauvoir. Elle a tout fait pour s'infiltrer et elle a réussi. Simone de Beauvoir la remarque parce qu'elle est particulièrement intelligente. C'est une élève très douée et c'est toujours cela qui va séduire Simone de Beauvoir. C'est l'intelligence de ses élèves, que ce soit pour Olga, pour Bianca ou pour Nathalie.
Mais quel regard vous portez sur votre personnage, Nathalie Sorokine, qui est décrite tour à tour comme détestable et attachante?
Elle est à la fois héroïne et anti-héroïne. Elle peut être détestable parce qu'elle a un caractère très fort, elle est violente, elle est mythomane, elle est kleptomane. Il faut comprendre que c'est une jeune élève apatride. Elle est issue d'une famille de Russes blancs, d'une famille extrêmement difficile. Elle a un père violent et alcoolique, une mère particulièrement sévère et injuste envers elle. Donc elle a beaucoup de raisons pour être à la fois un personnage très attachant et en même temps elle est un petit tyran, comme dit Simone de Beauvoir, qui va tout faire pour entrer dans sa vie.
Mais c'est peut-être pour ça qu'elle va s'y attacher si longtemps, parce que les soumises ne duraient jamais très longtemps.
Je pense que Simone de Beauvoir a beaucoup lutté pour ne pas entamer cette relation avec elle. Elle sait qu'elle va lui prendre énormément de temps. Elle comprend très vite qu'elle est jalouse, qu'elle a un caractère très difficile. Et malgré tout, Nathalie Sorokine est très belle, elle est très intelligente, elle est drôle, elle a un caractère très fort. Et donc, elle va quand même s'engager dans cette relation-là.
Quel rapport Nathalie Sorokine entretenait-elle avec Jean-Paul Sartre? Il y avait une forme de rivalité entre eux ou...
Oui, alors, au départ, il y avait clairement une rivalité. Pour Nathalie Sorokine, il était l'homme à abattre. La chance qu'a eue Nathalie Sorokine, ça a été l'absence de Jean-Paul Sartre, qui est parti à la guerre et qui a permis à Nathalie Sorokine d'avoir Simone de Beauvoir pour elle. Et lorsque Sartre revient de la guerre, elle est très inquiète à l'idée de le rencontrer. Elle a peur de perdre sa place. Simone de Beauvoir ne veut pas trop le présenter. Donc, une fois de plus, elle va organiser une filature Sorokine et réussir à le retrouver dans la ville. Elle a dans sa poche une épingle à nourrice et elle est prête à le piquer avec son épingle à nourrice si jamais il lui déplaît. Mais finalement, il ne lui déplaît pas. Elle se rend compte que, tout comme Simone de Beauvoir, il est extrêmement intelligent. Et elle décide finalement d'avoir aussi une relation, mais une autre relation malgré tout avec lui. Et lui qui se méfiait d'elle est également séduit par elle et décide de la protéger comme d'autres jeunes dont il s'occupe. Et peu à peu, elle rentre dans cette fameuse famille Sartre.
Vous dites que Nathalie Sorokine et Beauvoir ont vécu leur idylle librement, qu'elle s'affichait sans craindre les regards. Mais en fait, quel risque prenait-elle? Il faut quand même rappeler que Simone de Beauvoir a fini par être exclue de l'éducation nationale.
Elle prenait un réel risque, puisque à cette époque-là, il faut réaliser qu'on est sous l'occupation. L'homosexualité masculine n'est certes pas criminalisée. En revanche, l'homosexualité féminine ne l'est pas. Il n'empêche que c'est une circonstance aggravante pour les nazis et qu'une femme lesbienne pouvait être déportée au même titre qu'une femme résistante ou qu'une femme juive. Donc elle prenait un véritable risque.
Leur relation, je l'ai raconté, a duré 30 ans, 30 longues années, jusqu'à la mort prématurée de Nathalie Sorokine à l'âge de 47 ans. Comment cette relation a-t-elle évolué au fil des années?
Alors, leur relation a fortement évolué. Donc, au début, elles étaient amantes. Ensuite, Nathalie Sorokine va partir après la guerre aux États-Unis. Elles vont rester très proches et très amies toute leur vie, puisque aux États-Unis, elle viendra lui rendre visite. Elles vont vivre ensemble un très grand road trip qui va les marquer l'une comme l'autre, puisqu'elles vont être frappées par choquées, bouleversées par la ségrégation. Et puis, peu à peu, évidemment, la distance va quand même les séparer. À chaque fois que Nathalie reviendra en France, elles se reverront toujours. Malgré tout, malgré ce qu'elle aura pu lui faire, parce qu'elle n'est pas toujours tendre, Sorokine, et elle ne sera pas toujours gentille avec Beauvoir, elle lui pardonnera. Et jusqu'à sa mort, elle sera présente à ses côtés.
Et dans son œuvre, puisque Simone de Beauvoir l'a immortalisée dans Les Mandarins sous les traits de Nadine. Est-ce qu'elle a inspiré d'autres personnages, Sorokine, et d'autre part, quelle place prend-elle vraiment dans toute l'œuvre de Simone de Beauvoir?
Elle a une très grande place dans l'œuvre de Beauvoir, puisqu'on la retrouve évidemment dans les correspondances, dans les mémoires, dans le journal de guerre, où énormément de moments lui sont consacrés, et puis dans la fiction aussi. Dès l'invité, elle apparaît, puisque Simone de Beauvoir explique que Xavier n'est pas seulement Olga, mais il y a un petit peu de Nathalie aussi dans ce personnage-là. Elle est également Hélène dans Le Sang des Autres, le deuxième livre de Simone de Beauvoir, qui lui est d'ailleurs dédié, avant même d'en dédier un à Sartre. Et enfin, elle est Nadine dans Les Mandarins, qui lui vaudra le Goncourt.
Je l'ai raconté, Simone de Beauvoir a fréquenté plusieurs de ses élèves mineurs, dont Bianca, qui a raconté dans ses mémoires d'une jeune fille dérangée comment Simone de Beauvoir et Sartre avaient abusé d'elle et comment elle aurait été victime d'une forme de rabattage, en quelque sorte. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut juger ces pratiques, ces relations à la lumière du mouvement MeToo, est-ce que c'est une erreur anachronique ?
Non, je pense qu'au contraire, il faut absolument pas céder au relativisme, et c'est très important d'analyser ces relations avec ce regard-là. Si j'avais pensé que Nathalie avait été victime, qu'il y avait une sorte d'abus de la part de Simone de Beauvoir, j'aurais pas écrit le même livre. C'est évident. Je pense que la relation professeur-élève, de toute manière, suscite toujours des questions. Donc on est obligé de se poser ces questions-là. Par rapport à Sartre et Bianca, j'aurais absolument pas le même point de vue. Je pense qu'il y a effectivement, pour le coup, un abus de la part de Sartre qui a joué de son autorité, qui a mis en place une stratégie amoureuse avec Bianca. Et puis, même après, dans leur relation, la manière dont lui a pris sa virginité, aujourd'hui, clairement, il y aurait sûrement plus qu'un livre, comme elle a pu le faire, un hashtag MeToo pour Sartre, ce qui n'est pas du tout la même chose pour Beauvoir, qui a vécu trois grandes histoires d'amour. En revanche, elle ne voulait pas vivre en trio avec Bianca, et elle a été très jalouse, très déçue de voir cette jeune maîtresse choisir Sartre plutôt qu'elle. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait lui reprocher à Beauvoir, à tout prendre, c'est d'avoir manipulé Sartre pour qu'il quitte Bianca. Mais elle était réellement amoureuse de ces trois élèves. Sont vraiment trois grandes histoires d'amour.
Et justement, on sait ce que Simone de Beauvoir aimait chez Jean-Paul Sartre. En revanche, qu'est-ce qu'elle recherchait chez ces jeunes femmes? Est-ce que c'était vraiment... c'était charnel, c'était intellectuel, c'était...
Je pense que chez Simone de Beauvoir, toute relation était avant tout intellectuelle dans un premier temps, et puis c'était aussi des relations charnelles. Avec Nathalie, elles ont une relation très passionnelle et très physique aussi. Hein, ça, je pense que c'est très important de le dire aussi, contrairement avec Sartre, avec qui elle avait une relation qui n'était plus qu'intellectuelle.
Bah, merci beaucoup, Julie Duchâtel. Je rappelle que votre livre, Nathalie Sorokine, La passion folle, est disponible aux éditions Alizio. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste, alors vraiment tout juste, de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, avec un indice musical qui va vous ambiancer. Écoutez plutôt.
Le fric, c'est chic.
Le fric, c'est chic. Oui.
On m'a encore parlé d'Ivan Rebroff, si j'étais riche, non?
Eh ben, pas du tout. Ouais, le fric, vous savez comment ça s'écrit surtout.
FR2EK.
Non, pas deux E.
C'est F-R-E-A-K.
E-A-K qui veut dire
Bah, Freak, les monstres.
Les monstres, on va parler de Freak Show aujourd'hui.
Ah voilà. Oui, on connaît bien.
Il y avait un piège.
Avec l'air et d'eau, c'est notre grand fort.
Eh bien, avant cet affrontement à fleurs et mouchetées, je vais laisser la parole à Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez donc l'histoire d'amour entre l'écrivaine George Sand et son médecin italien.
Oui, en février 1834, à Venise, le jeune et très séduisant médecin chirurgien Pietro Pagello a 26 ans. Et c'est un homme comblé, promis à un bel avenir. Il est marié à une femme absolument ravissante qui a un prénom qui m'a tapé dans l'œil, Harpalice. Harpalice, c'est étrange comme prénom, n'est-ce pas ? Il a ouvert son propre cabinet, il commence à avoir une bonne clientèle, donc tout va très bien pour lui. Et ce matin-là, février 1834, dans la brume vénitienne, on frappe à sa porte. C'est le factotum, enfin l'homme à tout faire, le groom en somme de l'hôtel d'Agnelli, l'hôtel le plus chic de Venise. L'hôtelier l'a envoyé chercher le médecin le plus proche pour une cliente malade. C'est une dame française, semble-t-il. Arrivé au Danieli, Pagello pénètre dans la chambre de la malade et il voit, je le cite, une jeune dame couchée sur un petit lit, coiffée d'un foulard rouge. Près du lit, un grand jeune homme maigre et blond. La dame est Georges Sand, le jeune homme maigre et blond, on aura reconnu son amant Alfred de Musquet.
De Muscadet.
Alors, Pagello saigne la malade, il revient la voir le lendemain, elle va mieux, voilà, tout aurait pu en rester là. Mais 15 jours plus tard, Georges Sand lui fait adresser un billet dans un italien approximatif. Elle réclame sa présence pour Musset, qui est fiévreux et délirant. Retour au Danieli pour Pagello, qui dès lors va s'y rendre tous les soirs, pendant une semaine. Il passe de longues soirées avec Georges Sand à veiller le malade. Bon. Et évidemment, il n'est pas bien difficile de trouver le beau Pagello plus sexy que Musset. Parce que Musset, à ce moment-là, d'abord, c'est un poète complètement alcoolique. Là, il est fiévreux, il délire sur son lit de douleur. Bon, alors évidemment, ce n'est pas très séduisant. Puis il est tourmenté, il est fragile. Enfin bon, voilà. Donc, un soir tard, qu'arriva-t-il alors qu'ils viennent de passer toute une soirée, une nouvelle soirée de garde malade? Sand, tout à coup, saisit une liasse de feuillets et se met à écrire fiévreusement. Elle écrit près d'une heure, d'un seul jet, sans une interruption, sans une rature. Puis, elle glisse les feuillets dans une enveloppe qu'elle tend à Pagello. « À qui dois-je la remettre ?» demande Pagello. Alors, Georges Sand reprend l'enveloppe et elle y écrit « Au stupide Pagello ». Voilà comment Pagello entre dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de France par cette dédicace de Georges Sand « Au stupide Pagello » qui n'a pas compris que c'est lui que je désire. Et cette lettre vient libérer précisément le désir qui couvait depuis des jours entre ces deux jeunes gens et un nouveau couple d'amants de Venise est né. Alors, bon, Georges Sand quitte aussitôt l'hôtel d'Agnelli. Le malheureux Pagello, là, il vient de tomber aux griffes d'une maîtresse très exigeante. Et
parce qu'ils ont, quand même...
Ah bah oui, voilà, bon. J'expliquais ça de façon poétique, mais oui, un nouveau couple, en fait, bah oui, bien
un peu
sûr.
De précision, s'il vous plaît.
Il l'a pécho, bah voilà. Mais où, alors voilà. Ils sont partis.
Mais
bah,
où?
Ah bah où, comment ça, où? Dans le vestibule, dans la chambre d'hôtel.
Parce que la femme est à la maison, oui. La femme de Pagello.
Et ben dans un premier temps,
il y a Musset qui est dans le lit.
Oui, mais ils ont une suite. Vous savez ce que c'est, Stéphane. Donc il y a toutes sortes d'alcôves, de petits réduits où on peut aller dans le.
Non, mais il faut être précis. Oui, pardon.
Ben moi je sais pas.
On
je ne sais pas.
On
je ne sais pas où Pagello et Georges Sand ont fait l'amour au Danieli, mais croyez-moi, il semblerait qu'ils se soient dépatouillés pour y arriver.
D'accord.
Et donc du coup, ils prennent un petit appartement tous les deux au centre de Venise. C'est Georges Sand qui va l'aménager. Alors, note André Mauroy cette belle formule à propos de Georges Sand. Elle avait l'adultère ménagé. Donc elle s'est mise à tout aménager. Mais bien vite, le pauvre Pagello, ils sont complètement isolés, ostracisés. Alors, assez vite, de torride, leur relation s'attiédit. Car Georges Sand, qui est saisi par le besoin d'écrire, elle est quand même à Venise et c'est ce qui l'a fait vivre. Et bien, parfois, elle gratouille des feuillets le soir pendant 6, 7 ou même 8 heures d'affilée en buvant du thé et en fumant. Alors, le pauvre Pagello, il passe quand même un peu au second plan. Ils vont voyager quelque temps autour de Venise, mais finalement, fin juillet, Georges Sand, qui n'a pas vu ses enfants depuis 8 mois, décide de rentrer à Paris. Alors, dans ses valises, elle met son petit Pagello, qui la suit fort caninement, comme aurait dû dire Colette, fort docilement. Il suit sa maîtresse, ou plutôt son maître, d'ailleurs, en l'occurrence. Les voilà à Paris, dans les premiers jours d'août.
Enfin, et Musset, il est où?
Lui, il est maintenant, on ne le calcule plus. Il est resté à Venise, là, il est subclaquant. Il n'en a plus pour longtemps. C'est très intéressant.
Vous êtes trop romantique.
Alors du coup, Georges Sand casse son Pagello dans une chambre minuscule au 4e étage d'un hôtel rue des Petits Augustins. Elle lui présente quand même quelques professeurs en médecine parisien. Mais enfin, lui, il est complètement abandonné en terre étrangère par la femme qu'il aime, sans argent, sans amis. Et il écrit à son père « Si quelqu'un a toutes les raisons de se jeter à la Seine, c'est bien moi ». Alors, fin août, elle l'invite à Nohant et il se revoit une dernière fois. Il refuse d'y aller. Il se quitte par une simple poignée de main absolument glaciale sans avoir échangé un mot. Jamais Pagello ne reverra George Sand. Jamais plus il ne lui donnera de ses nouvelles ni n'en recevra d'elle. Mais 60 ans plus tard, en 1896, avant sa mort, donc, Pagello a eu la grandeur d'âme de ne pas priver la littérature française de l'une des plus belles lettres d'amour qui ait jamais été écrite. Alors voilà, pas si stupide que ça, ce Pagello, finalement.
Merci beaucoup, Clémentine. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, je dois l'avouer, je suis extrêmement heureux de participer à ce moment. Ravi que ce quiz ait lieu et que Jean-Luc le présente. Ça me comble de bonheur.
Ah, bah peut-être que vous pouvez préciser, Stéphane, que vous êtes comblé de bonheur quand vous gagnez.
Non, je ne suis pas comme ça. Vous avez même la victoire de mon amie Clémentine me comble de joie.
Ah bah c'est très bien, ça semble bien.
Vous êtes sincère quand vous dites
oui,
ça.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Eh bah alors, ne faisons pas attendre la joie, jouons. Alors je sais que dans ce quiz, qui est une épreuve pour vous deux, en général il y a une espèce de solidarité.
Oui.
Exceptionnellement, sur cette première question, je voudrais qu'il n'y ait aucune solidarité. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je compte sur vous, Clémentine, d'accord ?
Non.
Oh, si, vous allez vite comprendre. On ne le dira jamais assez, Stéphane, il faut peut-être se méfier de Wikipédia. Je suis tombé sur la fiche d'un ancien magistrat à la Cour des Comptes, longtemps président des associations familiales protestantes. Alors, j'ai pas le temps d'énumérer toutes ces prestigieuses activités, sachez juste qu'il fut le papa de Clémentine Porté-Kaltenbach. Je veux parler de Pierre-Patrick Kaltenbach. Selon Wikipédia, il a conçu une affiche en 1972 qu'il a placardée dans la Drôme et dans l'Isère, où il y avait marqué quelque chose d'assez surprenant. Mais quoi ? Foire du sexe rural à Mans ou festival du joint de drogue à Mans ? J'imagine que vous avez la réponse.
Oui, j'ai la réponse. Ouais. Parce qu'on a bien rigolé.
Voilà.
C'est quand même bizarre pour un protestant d'aimer à la fois le sexe et la drogue.
Bah oui, mais voilà. Ouais. Voilà. Il y en a eu un, c'était mon père.
Bah, en même temps, Clémentine est née, donc il ne devait pas détester la bagatelle. Donc, je serais plutôt tenté de penser au sexe rural plutôt qu'au joint. La drogue, c'est pas trop le truc des protestants, quand même.
Alors, on part sur ça ?
Sexe rural.
Le sexe rural, on vérifie.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, est-ce que vous voulez expliquer ?
Ben, ça n'était pas... Le texte de l'affiche, c'était non à l'érotisme urbain, foire du sexe rural. C'est une affiche qui a été faite dans les années 70 et en effet, mon père et quelques copains sont allés afficher ça dans toute la région. D'ailleurs, les gendarmes étaient venus à la maison en se disant, ça c'est forcément le canular d'un Parisien. Et il y avait... On avait organisé un méchoui. Il y a quand même quelques personnes qui sont venues dans le village. Dans le village de 700 personnes, il s'y passait rien du tout, croyez-moi, mais ça a été quand même assez rigolo. Et mon père, tout magistrat qu'il fût et tout protestant, un peu raide par ailleurs, adorait les canulars et on a fait
voilà, un canular pour promouvoir une fausse foire et pour se moquer de la révolution libertaire
foire
de 68.
Foire du sexe rural. Oui, c'est ça. C'était pour ce fiche de 68. Hein. Il a fait aussi une affiche qui s'appelait « Comment faire de votre enfant un bon délinquant » en donnant tous les conseils idoines pour y arriver le mieux possible. Oui. C'est plutôt un subversif.
Et ben, on salue l'œuvre de Pierre-Patrick
c'est
Kaltenbach.
C'est gentil, merci. J'en suis touché.
Ça, c'était l'hommage à la famille Kaltenbach. Maintenant, ça va se gâter puisqu'on va vous poser une question.
Sur la famille de Stéphane, peut-être ?
Non, pas tout de suite. Il ne l'a peut-être pas inventé, mais il a été un des premiers à en faire un. En tout cas, c'est la première fois qu'on en trouve trace. Et ça, là, je parle du CV.
Ah oui.
Le curriculum vitae. Mais qui a été le premier à faire un CV ? Shakespeare ? De Vinci ? Ou le Père Lachaise ?
Alors... Il y a quelques jours, là, quelques temps, je vous ai parlé de la lettre de candidature de Léonard de Vinci. Donc là, vous me citez le Père Lachaise qui lui est postérieur et vous me citez Shakespeare
qui est contemporain.
Moi, je pense que c'est du coup Léonard de Vinci.
Écoutez, je ne vais pas insister parce que vous nous l'avez fait il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, on part sur cette réponse.
Vous avez gagné !
De Vinci, on a retrouvé le sien donc en 1482. On ne connaît pas de CV plus vieux. Il avait donc 30 ans. Léo était surtout artificier. Il l'a envoyé au duc de Milan.
Oui, mais ne refaites pas la chronique de Clémentine.
Il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas écouté.
Si, c'était tellement intéressant.
Voilà. Bon, écoutez,
merci Jean-Luc.
Vous l'avez fort merci. Bien rappelé.
Ah non, Jean-Luc, vous faites très fort aujourd'hui.
Ça va se gâter maintenant.
Je crois qu'elle se moque.
Le KKK, ça vous parle ?
Oui.
Le Ku Klux Klan était un peu sectaire, on peut le dire. La preuve, il n'acceptait pas les femmes. Qu'importe a été créé en 1923 un Ku Klux Klan que pour les femmes. Vrai ou faux ?
Vous avez déjà rencontré une femme KKK, vous ?
Oh, bah bien sûr.
Le problème, c'est qu'on ne la reconnaît pas avec la cagoule.
Non, jamais avec la cagoule. Oui, c'est vrai, la cagoule, c'est compliqué. Puis l'espèce de robe, là aussi, c'est oui, unisexe. Donc, allez savoir si c'est...
Est-ce que les femmes sont KKK ?
Oh, attendez, ça c'est vraiment un truc d'homme exalté, raciste, vieux
beau,
vous
wasp. Vous pensez que les femmes ne peuvent pas être racistes et exaltées?
Si, mais enfin, si vous voulez, dans les années 20, ils ont d'autres chats fouettés d'aller passer leur week-end au Ku Klux Klan.
Je ne vois pas des femmes caca.
Pas de femmes caca. En 1923, on reste là-dessus.
Ouais, on reste là-dessus.
Allez.
Vous avez perdu.
Si, elles étaient aussi racistes.
Non.
C'était le WKKK.
Ah, woman caca.
Ouais. Elles étaient dans l'Arkansas. Pour y entrer, il fallait être blanche, protestante et non immigrée.
Ah, bah dis donc.
Voilà. Et ben, c'est pas très glorieux, mais en tout cas, ça existait. Une question pour Clémentine. Qui peut remporter ce quiz ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de freak show. On estime que les freak shows aux États-Unis ont eu énormément de succès au milieu du 19e siècle.
Oui.
Les freak shows, ce sont ces spectacles où des humains avec un physique particulier se produisaient dans des cirques. Par exemple, Clémentine, la femme soutane. Et Stéphane, l'homme teckel. Thomas Weders est né en 1730. Son record, il le détient toujours. C'est quoi ce record ? Il avait le plus grand nez au monde, le plus grand gros orteil au monde, ou le plus grand petit doigt du monde ?
Le plus grand nez.
C'est le nez. On l'a déjà raconté.
Il est blasé. Il est complètement blasé.
Écœuré. C'est-à-dire, elle a toutes les questions qu'on a déjà traitées. C'est une spéciale Clémentine.
Mais c'est pour voir,
c'est
si,
super.
C'est pour voir si elle écoute.
Oui, bien sûr.
C'est un contrôle des connaissances aujourd'hui.
Je vous en ai même montré une photo captée sur
mais
Internet.
Oui, je me souviens très bien.
Un extraordinaire de 20 cm.
Mais elle a eu deux questions dont elle connaît la réponse.
Excusez-moi.
Bravo.
Elle nous a montré l'homme qui avait le plus grand nez au monde, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait aussi un plus gros doigt ou un plus gros orteil.
Seul l'avenir le dira.
Bah, allez-y, avenir, dites-le nous.
Alors, vous restez
sur le nez. J'ai dit le nez, je reste sur le nez.
Vous restez sur le nez.
Vous avez encore gagné.
Voilà, c'était une spéciale Clémentine Portier-Kaltenbach aujourd'hui. On a eu son papa, on a eu des questions faciles pour elle. En tout cas, elle mérite sa victoire. Thomas Weders est mort en 1780. Il avait un nez de 19 cm, soit 7,5 pouces. Selon les témoignages de l'époque, il avait un esprit très simple.
Oui. Tout était dans le nez.
Est-ce que vous voulez connaître le record de l'homme vivant au plus long nez du monde aujourd'hui ?
Oui.
C'est un Turc et son nez fait 8,8 cm.
Ah, quand même.
En tout cas, c'est une caisse.
Merci
beaucoup, Laure de Clémentine.
Merci beaucoup, Jean-Luc.
Voilà, oui. Là, vous avez été bien servi. Hein. Bravo. Et historiquement, votre continue avec nos dames du jour qui sont tombées amoureuses de leur élève.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
C'est l'histoire d'un amour passionné sous le soleil de Marseille dans la fureur de vivre de mai 68. Celle d'une professeure de lettres avec l'un de ses élèves. Leur idylle est de courte durée car les parents du garçon et la justice viennent s'en mêler. Je vous raconte maintenant Gabriel Russier dont la fin tragique est devenue un triste fait divers. Nous sommes à Marseille le 14 septembre 1967. C'est le grand jour. Gabriel Nogues, né Russier, fait sa première rentrée. À 30 ans, fraîchement diplômée de l'agrégation de lettres modernes, la jeune femme va enseigner le français et le latin au lycée Nord, le seul lycée mixte de la cité phocéenne. Pour l'occasion, elle a mis sa tenue préférée, une robe courte, bleue à pois blancs, surmontée d'un col Claudine. Tout devrait bien se passer. Face aux élèves de seconde C, elle sort de son cartable « Écume des jours » de Boris Vian. Le cours va commencer. Au deuxième rang, un élève, beau, brun, la fixe de son regard pénétrant. Il s'appelle Christian Rossi. À cause de lui, ou plutôt pour lui, tout va en réalité déraper. Gabriel Russier, né à Paris en avril 1937, est la fille d'un avocat pénaliste au barreau de Paris et d'une américaine. À 20 ans, elle épouse Michel Nogues, un ingénieur spécialiste de la fission nucléaire. Direction le Maroc pour le boulot, où Gabriel donne naissance à des jumeaux, Joël et Valérie. Elle trouve un poste dans un lycée et se découvre une passion, enseigner. Après un passage à Casablanca, les Nogues atterrissent à Aix-en-Provence. Nous sommes en 1961. Leur relation se dégrade assez vite et une procédure de divorce est entamée. Chaque jour, Gabrielle fait ses allers-retours en deux chevaux pour aller enseigner au lycée Nord de Marseille. Elle n'aime pas vraiment la distance, surtout pas celle qui la sépare de ses nouveaux élèves. Alors elle les retrouve dans la cour pour discuter musique et cinéma, les rejoint même au café d'à côté ou au bowling. Un jour, elle décide de les emmener au ski. Les élèves sont ravis. Il y a Claudette, la fille d'épicier communiste, André, la bonne élève, Luc, l'élève parfait, ou encore Didier, le royaliste. Et puis il y a Christian Rossi, 15 ans et demi, le teint mat, des cheveux très bruns, un peu de barbe, plutôt beau gosse. Gabrielle connaît bien ses parents, professeur à l'université d'Aix-en-Provence. Elle a même été l'élève de sa mère. Sur le parvis du lycée, après les cours, Gabrielle et Christian fument les mêmes gauloises bleues. Ils aiment Gainsbourg et Reggiani tous les deux, pleurent la mort du Che et s'indignent des bombardements américains sur Hanoï. Quand les mouvements étudiants de mai 68 arrivent à Marseille, ils sont en tête des cortèges, main dans la main. Dans les amphis, après les assemblées, la professeure et l'élève échangent leur premier baiser et ne prennent pas vraiment la peine de se cacher. La rumeur de la liaison prof-élève se répand comme une traînée de poudre. Un jour, à la sortie du lycée, Mario Rossi, le père de Christian, l'alpague. « Cessez de voir mon fils, laissez-le tranquille. Il est vert de rage. » C'est à peine si Gabrielle reconnaît l'homme qui l'avait félicité quand elle avait obtenu mention très bien à son mémoire. L'homme se dit favorable au mouvement de mai 68, mais il faut croire que sa liberté commence là où s'arrête celle des autres. Mi-juillet, Christian Rossi annonce à ses parents qu'il part en stop en Italie avec un ami. L'ami en question s'appelle Gabrielle. Ensemble, ils vont à Florence, à Rome, en Sicile. Dans leur voiture, un autocollant annonce la couleur. Fate l'amore, non la guerra. Les Rossi choisissent la deuxième option quand ils apprennent l'escapade des amoureux de leur fils et de sa professeure de lettres. Les insultes pleuvent, les menaces aussi. Gabrielle, qui a désormais quitté Aix-en-Provence, tombe en dépression. Mais envers et contre tout, elle aime Christian et Christian l'aime. Ils se retrouvent toujours. La traque des parents et bientôt de la police s'intensifie. Le 25 novembre 1968, les Rossi portent plainte pour enlèvement et détournement de mineurs. Placée sous surveillance policière, Gabrielle se déguise pour échapper aux filatures. Le juge Bernard Palanque est chargé de l'affaire. Les Rossi lui expliquent comment cette femme qui se dit professeure a ensorcelé leur fils. Jugée coupable de détournement de mineurs, Gabrielle est incarcérée à la prison des Baumettes sous le matricule 5785. Son domicile est perquisitionné. On croirait une affaire de grand banditisme, pas de drogue ni d'armes à feu, seulement des lettres d'amour enflammées. Christian Rossi, qui a désormais 17 ans, est interné de force par ses parents en clinique psychiatrique. Il écrit à Gabrielle.
« Souviens-toi de notre accord, il ne faut pas s'inquiéter et ne pas vieillir. Je ne sais pas ce qu'ils veulent au juste, mais si c'est me faire oublier, ils peuvent attendre. Ti amo per sempre. »
L'amour ne s'oublie pas à coups de médicaments. À sa sortie, Christian accepte d'aller chez sa grand-mère à Montpellier et de reprendre le lycée, mais le 19 avril, il saute dans le train pour Marseille. Gabrielle a été libérée, doublement d'ailleurs car son divorce a enfin été prononcé. Elle reprend son nom, Russier, mais elle sait que la fugue de celui qu'elle aime signe son arrestation. Quand la police débarque à son domicile 5 jours plus tard, sa valise attend dans l'entrée. Retour à la case prison pour quelques mois. Au Baumettes, qu'elle connaît bien maintenant, elle se joint à la chorale et travaille à la bibliothèque. Mais les jours passent, Gabrielle se sent seule et ses forces l'abandonnent. Elle redoute de ne jamais pouvoir oublier la déchéance, l'avilissement, l'obscénité. Les idées noires sont de plus en plus dures à chasser. Lors de son procès, le 10 juillet 1969, Gabrielle Russier porte la même robe bleue à pois blancs qu'elle avait le jour de la rentrée au lycée. Pour avoir aimé son élève, elle est condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 1500 francs d'amende et 1 franc symbolique de dommages et intérêts pour les parents de Christian, Mario et Marguerite Rossi. Une peine qui lui permettrait de bénéficier de l'amnistie présidentielle. C'est un soulagement de courte durée. Quelques heures après, le procureur général fait appel. Il faut tout recommencer. Pour couronner le tout, l'éducation nationale lui réclame de l'argent. Les problèmes financiers la font sombrer encore un peu plus. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1969, presque 2 ans après son arrivée au lycée Nord, Gabrielle Russier, dans sa robe de chambre bleu ciel, calfeutre toutes les issues de son appartement et avale le contenu d'une boîte de médicaments. Elle va ensuite débrancher le tuyau de gaz dans la cuisine et l'oriente vers sa chambre. avant enfin de s'allonger sur son lit. La professeure de français d'à peine 32 ans ne fera plus jamais sa rentrée.
Mourir et aimer, tandis que le monde me jure.
Quand ses anciens élèves apprennent la nouvelle du suicide de Gabriel Russier, ils sont absolument dévastés. Pour Christian Rossi, c'est insupportable. Le séjour en clinique psychiatrique, cette fois, l'aidera peut-être à l'oublier. Le chagrin, tout du moins. L'événement passe d'abord inaperçu dans les médias, puis devient, au fil des semaines et des mois, le sujet de toutes les conversations. L'affaire embrase les journaux et inspire les artistes. Chansons, livres et même un film avec Annie Girardot dans le rôle de la triste protagoniste. Rendent hommage à cette vie qui restera dans l'histoire à la rubrique « Faits divers ». Un fait divers qui secoua jusque dans la sphère politique et sur lequel fut interrogé le président Georges Pompidou lors de sa deuxième conférence de presse quelques jours après les faits, le 22 septembre 1969. Il prit le temps du silence avant de dire non pas ce qu'il pense, mais ce qu'il a ressenti.
Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard.
Tout est dit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Gabriel Russier, nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste qui a longtemps enquêté sur l'affaire qui porte son nom. Bonjour Joseph Beauregard.
Bonjour Stéphane Bern.
Joseph Beauregard, vous avez publié « Comprenne qui voudra » avec la journaliste Pascale Robert-Diard, un livre enquête sur cette passion hors la loi tirée d'une série publiée dans le journal Le Monde. Vous avez rencontré des dizaines de protagonistes de l'époque, 120 au total, parmi lesquels des élèves de Gabriel Russier. Comment parle-t-il de cette femme, de cette tragédie, 50 ans après? Ils ont été durablement marqués?
Ils ont tous été touchés, ébranlés. Mais il y a ceux qui ont fait leur vie, et il y a ceux, c'est peut-être maladroit de l'exprimer comme ça, mais qui sont un peu restés coincé par cette histoire. Vous êtes dans l'adolescence, vous voyez votre professeur qui vit une histoire d'amour, et ça tourne au drame, ça tourne à la tragédie. Alors vous ne pouvez être qu'ébranlé. Et en effet, il y en a qui n'y ont pas surmonté, qui sont dans le chagrin, vous avez utilisé un très joli mot, le chagrin, voilà, dans une peine. Et je veux pour preuve que certaines élèves de Gabriel n'ont pas eu d'enfants. Voilà, d'autres les ont eu, et ça a tout changé. Vous savez, si vous allez vers la vie, vous faites des enfants, et ça change tout. On pourrait aussi évoquer Christian Rossier. Alors c'est plus complexe avec Christian parce que, évidemment, j'ai essayé de nouer une relation de confiance avec lui. Qu'est-ce que je peux vous dire de lui? Pas grand-chose, finalement. D'abord parce qu'il faut respecter sa vie privée. Il l'a expliqué. Hein, voilà, cette histoire, elle lui appartient. Ce que je peux vous dire, c'est que tout de suite après la mort, il y a eu 2 années de flottement. Et ensuite, il y a eu une réconciliation avec ses parents. Et ensuite, il a fait sa vie et lui-même a eu des parents.
Des enfants.
Des enfants, oui.
Joseph Beauregard, vous vous êtes plongé dans les lettres écrites par Gabriel Russier alors qu'elle était en prison. Que lit-on entre les lignes? Qu'est-ce que ces écrits disent d'elle?
L'inquiétude. Une profonde inquiétude, mais pour les autres. Bien sûr, elle va à un moment s'inquiéter pour elle. Mais voyez, elle s'inquiète pour ses élèves, elle s'inquiète pour ses enfants. Elle est prise d'inquiétude. Voilà. Cette femme avait des qualités littéraires exceptionnelles. Je pense que on a perdu une grande écrivain avec le décès de Gabriel Russier. Elle a un talent d'écriture absolument inouï. Évidemment, la prison, vous allez me dire, mais Joseph, la prison, ça favorise l'introspection, elle est entre quatre murs. Voilà, elle se raccroche à l'écriture et à la lecture. Et on voit une femme qui descend en enfer.
On la considère comme une criminelle, il faut dire les choses.
Alors, oui. Elle dit qu'elle est innocente et c'est ce qui pose aussi problème. Les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce que c'est qu'une innocente en prison? Et vous le savez, Stéphane Bern, il n'y a rien de plus difficile que d'être innocent. Un innocent, il se défend toujours mal. Un coupable, c'est se défendre, pas un innocent. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait là entre quatre murs. On voit une hypersensibilité au monde.
Olivier?
Oui, on l'a entendu à la fin du récit, en septembre 69, le président Georges Pompidou a réagi à cette affaire. Hein. Il a cité le poète Éluard. Dans quelle mesure la mort de Gabriel Russier a-t-elle ébranlé la société française?
Vous dites la mort, mais c'est le suicide. Parce qu'elle serait morte de maladie. Non, c'est une femme décide de mettre fin à ses jours pour une histoire d'amour. là où c'est intéressant, c'est que le président Pompidou, il a été dépassé lui-même par ses propres émotions. Il a oublié Devers. Ça prouve à quel point, même si c'était préparé, ben, il se laissait avoir par... il a été pris par son émotion. Mmh. Alors, votre question, c'est de dire... alors, en quoi cette déclaration d'un président de la République en 1969, qu'est-ce qu'elle dit de la société? Au fond, c'est un moment où la société, elle craque. Voilà ce qu'elle, ça dit là. Ça dit que dans notre pays, on avait une pulsion révolutionnaire et une pulsion conservatrice. La déclaration du président Pompidou incarne ce moment-là. Mais en faisant référence, en prenant le poème de Paul Éluard, il dit quand même qu'il se passe quelque chose dans cette société. Et lui-même, pour vous dire les choses franchement, je ne sais pas très bien où finalement où il se situe. Mais elle incarne cette déclaration que la société française, elle est particulièrement ébranlée. Parce qu'une jeune femme qui avait tout devant elle, qui était une professeure, une très bonne professeure, vient de se ficher en l'air pour une histoire d'amour.
En fait, qu'est-ce que l'on pleure de cette affaire, raconte de la société de l'époque, d'après vous, surtout de la façon dont on perçoit les femmes qui affichent leur liberté?
Ça, c'est la grande question. C'est la grande question parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque déjà, vous savez, il y avait des hommes d'un certain âge qui avaient des histoires d'amour avec des jeunes femmes et on trouvait ça très bien. Et aujourd'hui encore, quand un homme de 50 ans ou de 60 ans se marie avec une jeune femme, on trouve ça très bien. À l'époque, évidemment, les préjugés, et je pense que ces préjugés perdurent. Ce que ça dit, c'est que Gabriel Roussier, si vous me disiez, mais comment vous pourriez nous la résumer en une phrase? C'est le joli vers d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud disait que je m'entête à aimer affreusement, à adorer affreusement la liberté libre. Et c'était ça, Gabriel Roussier. Vous voyez, dans une époque qui est très marquée politiquement, où les engagements politiques sont extrêmement forts à l'extrême gauche, par exemple, ou dans le camp conservateur, Gabriel Roussier, elle incarne la liberté. Elle est d'un tempérament libertaire. Elle n'a pas du tout d'engagement politique.
Et surtout, ce qui est fou, c'est des parents qui étaient plutôt... les parents Russie, pardon, la vraie complexité là, ils sont pour la liberté, mais pas celle qui touche leur fils.
Alors, vous avez raison, Stéphane, vous avez absolument raison. Et en même temps, après, j'ai essayé, j'ai moi-même deux filles, et j'ai dit, et moi, comment j'aurais réagi? C'est-à-dire, je pense, vous savez, c'est cette jolie phrase qui dit qu'il n'y a pas de piège plus mortel que celui qu'un homme se tend à lui-même. Voilà, ils se sont tendus un piège. Ils n'ont pas vu jusqu'où ils iraient, mais ils se sont tendus un piège. À l'époque, c'est très intéressant, la loi, elle n'est pas la même entre les jeunes gens et les jeunes filles. Un homme, si une jeune fille de 15 ans a une histoire d'amour avec un adulte, que devant le juge d'instruction, cette jeune fille, Alberno le raconte...
Il dit qu'elle est consentante.
Exactement. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème.
Si c'est un garçon, c'est pas la même chose. Donc, la loi, elle était misogyne. Et peut-être que la grande, ce qui a apporté, entre guillemets, la rupture, la fracture avec l'affaire Gabriel Roussier, c'est les mentalités. Voilà. Et que la loi, elle a évolué dans le sens d'une plus grande égalité, même si les préjugés restent les mêmes.
En tout cas, merci beaucoup, Joseph Beauregard, d'être revenu dans votre livre Enquête, comprenne qui voudra, sur cette tragédie, cette histoire qui nous passionne encore 50 ans plus tard, coécrit avec la journaliste Pascale Robert-Diard et disponible aux éditions L'Iconoclaste. Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castelopez et Olivier Pouls, on réunit des professeurs qui sont tombés amoureuses de leurs élèves. Après Simone de Beauvoir et Gabriel Roussier, vous nous racontez, Jean-Luc, l'américaine Mary Kay Letourneau.
On va commencer par une petite question. Comment appelle-t-on un ascenseur en Chine?
Est-ce qu'il y a une blague ou alors est-ce qu'il faut...
Oui, il y a une blague.
Non, c'est... Non,
un ascenseur en Chine.
Oui, comment
on l'appelle en appuyant sur le bouton.
Exactement.
Je suis nul.
Je suis désolé. L'histoire de Mary Kay Letourneau se résume elle aussi à une question d'apparence compliquée avec une réponse simple. Comment appelle-t-on une enseignante qui a des relations sexuelles consenties avec son élève de 12 ans? Eh bien, aujourd'hui, pédophile. On appelle ça du viol. Hein, et surtout, on appelle la police en appuyant sur un bouton de téléphone. Oui, avec la grille d'analyse de 2023, la réponse est simple. Car on commence à comprendre que le consentement d'un enfant de 12 ans n'est pas une excuse valable pour avoir des relations sexuelles avec lui. Mais en 1997, les choses semblaient plus compliquées. Et Mary Kay Letourneau avait été abondamment présentée dans les médias du monde entier comme l'héroïne tragique d'une histoire d'amour impossible. Une histoire entre un ado précoce et une enseignante un peu trop portée sur les cours très particuliers. Mais les temps ont changé, et nous pouvons désormais évoquer lucidement et sans haine Mary Kay Letourneau, délinquante sexuelle ayant purgé sa peine, décédée en 2020 d'un cancer à l'âge de 58 ans. C'est un peu triste. Encore 30 ans, elle aurait pu légalement fréquenter des hommes qui portent des couches. Alors là, j'ai mis des rires enregistrés pour aider un peu. Parce que j'ai remarqué que quand on fait un sujet parlant de pédophilie d'enfants, les gens se raidissent.
Hein. C'est normal.
Les pédophiles aussi, d'ailleurs.
Oh.
Alors certes, sujet brûlant, mais sujet fondamental que l'histoire de Marie-Kay, car il permet de mesurer l'évolution des mentalités en 25 ans. Flashback. Nous sommes en 1996 dans l'état de Washington, où la ville de Seattle se remet à peine du suicide de Kurt Cobain, 2 ans auparavant. Mais le grunge n'est pas mort, lui. Et autour de Marie-Kay Le Tourneau, 34 ans, enseignante sans histoire, les adultes ont aussi les cheveux sales, ne se lavent plus et s'habillent comme des ados. Marie-Kay va alors préférer l'original à la copie, plutôt un ado que son mari. Elle a déjà 4 enfants avec Steve Le Tourneau, mais son couple bat de l'aile. Le mariage Le Tourneau est cuit. Cuit, cuit. Mais c'est le printemps dans le cœur de Marie-Kay. Elle s'est en effet amourachée d'un de ses élèves, Vili Fulao, solide gaillard malgré ses 12 ans. Un physique de rugbyman français, mais en plus des origines samoanes qui font que sur lui, les tatouages ethniques ne finiront pas par faire plouc. Sa prof est sous le charme. Elle l'a rencontré quand elle était en CE2. Mais c'est seulement en 5e qu'elle saute le pas. Comme quoi, c'est attendre. Hein, mais pas assez. Été 96, les grandes vacances. La police les arrête alors qu'ils fricotent chaudement dans une voiture. Marie-Kay tente une manœuvre audacieuse. Elle saute sur le siège avant pendant que le jeune garçon fait semblant de dormir à l'arrière. Ouais, c'est la meilleure cascade de l'année. La police la relâche, Luc Besson l'engage pour taxi, mais elle est dénoncée par un ami de son mari. Ça c'est vrai, c'est authentique. On sait que Steve Le Tourneau a en effet trouvé des lettres d'amour dans les affaires de Marie-Kay. Ce qu'on sait pas exactement, c'est comment il a compris que ces lettres provenaient d'un mineur. Peut-être à cause des coloriages. Et du poème suivant. MK, tes initiales c'est Mortal Kombat. T'es ma princesse Zelda, je t'aime plus que ma Sega. PS, c'est quoi les sujets de maths du contrôle? Je suis pas sûr que ce soit un document d'origine. Et oui, le jeune Vili Fulao n'a en fait ni l'âge ni la plume d'Emmanuel Macron au lycée de la Providence d'Amiens. Difficile dès lors pour Marie-Kay de plaider la fusion intellectuelle qui efface toutes les barrières. Elle opte pour une autre ligne de défense et déclare, pour de vrai, je savais pas que c'était illégal. Sacré Marie-Kay, toujours la tête en l'air. La pédophilie? Mais moi je croyais que c'était avec des timbres. Mais non, c'est pas ça du tout. Marie-Kay Le Tourneau a décidément un nom prédestiné. Est-ce que vous voyez pourquoi?
Elle est étourdie,
car un étourneau, dans le dictionnaire, c'est aussi une personne très étourdie. Ouais, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas, parce que... Enfin, moi, j'ai une excuse. Hein. J'ai arrêté l'école en 5e pour épouser mon prof de sport. Plus sérieusement, Marie-Kay Le Tourneau porte bien son nom. Du jour à prendre sa retraite à 67 ans, parce qu'elle ne savait pas qu'il fallait s'arrêter avant. Et avec Vili, c'est pareil. Hein. Elle ne s'arrête pas, Marie-Kay. Loin de là. Toujours plus à côté de la plaque. Et elle accouche de leur premier enfant en 1997. Ce que vous entendez là, ce sont les hurlements intérieurs que le pauvre Vili a dû pousser quand il a appris qu'il allait devenir père à 13 ans. Parce que pour moi, ça c'est vraiment la preuve que Marie-Kay Le Tourneau, loin d'être une héroïne tragique, avait vraiment quelques fils qui se touchent. Car quelle personne saine d'esprit peut se dire que ça serait vraiment une bonne idée d'avoir un enfant avec un enfant? Hein? Ouais, ça sonne mal. C'est comme, je sais pas moi, faire un gâteau avec un gâteau. C'est pas pratique. Tu vas pas l'élever dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que les réactions des médias en 1997 étaient étranges. Parce que quand même, avoir un enfant avec un enfant, c'est comme les To Be Free. Même à l'époque, ça sonnait bizarre. Et pourtant, rebelote l'année suivante, Marie-Kay accouche de leur deuxième enfant. Mais mettez des capotes, enfin. Je sais pas, moi, un peu de bon sens, Marie-Kay. Ah oui, t'es catholique, mais fais un effort quand même, à la fin. Mais bon, c'est trop demandé. Le cerveau de Marie-Kay a complètement décroché. Elle prend 6 mois de prison et ressort avec interdiction de contacter Vili. Elle avait dû faire une micro-sieste quand on lui a énoncé ce point, car à peine sortie, elle se fait tout de suite rigoler dans une voiture avec son préado. Retour en tôle pour 7 ans et une tentative de suicide pour Vili. Bah, tu m'étonnes. 2 enfants à 14 piges, il s'endort dans les bras de sa prof, il se réveille au Moyen-Âge. Alors certes, la suite de l'histoire semble prouver qu'ils étaient vraiment amoureux. Puisqu'en 2005, à sa sortie de prison, ils se sont mariés et ont vécu heureux, au moins 12 ans, jusqu'à ce que Vili demande le divorce. 12 ans, c'était son âge quand ils ont entamé leur relation. Marie-Kay Le Tourneau laisse derrière elle 7 enfants, 6 qu'elle aura élevés et 1 qu'elle aura empêché de grandir. Paix à son âme.
Merci beaucoup Jean-Luc. Quelle histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos professeurs qui sont tombés amoureuses de leur élève pour retrouver deux garçons qui ont aussi été amoureux de leur maîtresse mais ne lui ont jamais dit. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un plat qu'Olivier ne mange pas.
Oui, le poulet industriel.
Voilà.
Le poulet industriel, je dirais. Comment on est passé de...
Comment il est né.
Comment voilà. Il est né.
Oui. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au XVIIIe siècle, direction Napoli en Italie, pour découvrir celle qui a conquis le monde depuis, dans sa version moderne, je veux bien entendu parler de la pizza.
David Castel-Lopez. Le 11 septembre 2020, ici même, non seulement vous êtes allé encore marcher sur mes plates-bandes comme aujourd'hui, mais en plus, vous avez insulté l'Italie devant des millions d'auditeurs, car nous en avons. Durant 4 minutes et 29 secondes, vous avez raconté dans votre chronique Les Origines l'histoire d'une des pires créations culinaires au monde, la pizza hawaïenne. Une pizza à l'ananas, souvenez-vous.
La pizza à l'ananas, on appelle ça la pizza hawaïenne. Bon, et moi, comme je suis un journaliste sérieux, hein, pour les besoins de cette chronique, bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de pizza hawaïenne, donc j'ai retesté la pizza hawaïenne.
Voilà. Vous avez donc mangé une pizza hawaïenne, plutôt mourir que de m'en enfiler une. Quelque chose pour votre défense ?
Mais même pas, et en plus, j'ai bien aimé.
Bon.
Eh ben, ça s'aggrave. Ouais, ouais.
Alors, il est temps de remettre du sérieux dans cette émission et de laver l'affront fait à nos amis transalpins. Savez-vous quel est le plat le plus populaire au monde ?
Bah, la pizza.
Eh ben, oui.
C'est... Il n'y avait pas trop de suspense.
La blanquette.
On va voir. Vous suivez. Avec 64 300 000 hashtags sur Instagram et plus de 100 millions de recherches sur Google en 2022, la pizza reste bien loin devant ses poursuivants. Le hamburger et le ramen d'ailleurs, le plat le plus populaire au monde. Mais comment cette préparation si simple est née au fin fond de l'Italie s'est-elle imposée à ce point ? Pas un pays, pas une ville, sans y trouver une pizzeria. La pizza est le plat universel. Vous imaginez bien que la pizza n'a pas un seul et unique créateur. Il n'y a pas un type qui s'est levé un matin en disant « Tiens, je vais inventer la pizza ». Et avant d'arriver à ce que notre ami réalisateur Philippe Amardet, qui déguste tous les week-ends chez lui des pizzas maison parce qu'il est un brillant pizzaïolo, y arrive, eh ben, il s'est passé
il a le matos
du chemin.
Aussi,
il est
matos.
Hyper équipé, il est hyper fort en pizza.
Alors, la pizza, on est d'accord, est bien née en Italie. Quoi.
Oui, la pizza moderne que nous connaissons sans aucun doute, mais elle est la descendante d'autres préparations. Durant l'Antiquité déjà, on préparait dans de nombreux pays méditerranéens des galettes plates de céréales qui étaient généralement à l'époque cuites sur des pierres chaudes. Le nom de pizza serait d'ailleurs apparu dès le Xe siècle et viendrait du grec pita désignant une galette. Mais si l'on considère qu'une pizza digne de ce nom doit être cuite dans un four et recouverte à minima de sauce tomate et de mozzarella, il faut bien attendre le XVIIIe siècle pour pouvoir les déguster. Dès la moitié du XVIe, les Italiens cultivent la tomate, mais sans vraiment la faire entrer dans leur gastronomie. C'est au XVIIe que les Napolitains sont les premiers à en recouvrir leur pain, des pains qui sont cuits dans des fours à bois. On y arrive. Au XVIIIe siècle, la mozzarella, connue pourtant depuis près de 600 ans, et fabriquée avec du lait de bufflone, devient réellement populaire.
Ça y est, bon, on a maintenant tous les ingrédients de la pizza.
Ben oui, et la pizza se développe, devient un mets populaire et accessible, vendu et consommé dans la rue, mais elle reste cantonnée à Naples et sa région. La fameuse Margarita, la reine des pizzas, sorte de composition parfaite dont les couleurs évoquent le drapeau italien et qui se compose de tomates, de mozzarella et de basilic, naît au XIXe siècle. La légende attribue sa paternité au pizzaiolo Raffaele Esposito. Il l'aurait créé en 1889 en l'honneur de Marguerite, la première reine d'Italie. Une préparation qui va conquérir tout le pays avant de partir à la conquête du monde avec les vagues d'immigration italienne.
Et donc forcément avec les États-Unis, là où les Italiens sont partis en masse.
Et oui, les Napolitains qui débarquent à New York au début du XXe siècle apportent avec eux la mafia et la pizza. Deux spécialités qui vont considérablement se développer et contribuer d'ailleurs à leur fortune. Le phénomène de mondialisation de la pizza va ainsi partir non pas de Naples, sa ville d'origine, mais bien des États-Unis, de New York, où la communauté italienne l'a popularisée. Elle va conquérir d'autres grandes villes, à commencer par un autre grand fief de la mafia, Chicago, où naîtra d'ailleurs la Chicago Pizza Style, une pizza à la pâte plus moelleuse et garnie très généreusement. Les années 40 puis 50 verront l'industrie agroalimentaire s'emparer du phénomène avec les premières pizzas surgelées dès 1957 et les chaînes de fast-food dédiées à la pizza l'année suivante. Une success story mondiale pour ce qui n'était au départ qu'un simple plat de pauvre, mais qui restera à jamais entaché par la création de Sam Pananopoulos, un Grec immigré au Canada et qui a eu l'idée détestable en 1962 de coller des morceaux d'ananas sur sa pizza. Je vous rappelle que les origines de la pizza hawaïenne de mon ami David Castello-Lopez sont toujours disponibles sur le podcast europe1.fr.
Malheureusement, apparemment.
En tout cas, merci beaucoup Olivier. Mes aïeux, quelle époque.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Castello-Lopez, puisque vous nous racontez les origines du poulet industriel.
Chaque année, les êtres humains consomment 70 milliards de poulets. 70 milliards, ça fait presque 9 poulets par personne, en comptant en plus que les bébés, les gens qui n'ont pas de dents et le nombre croissant de végétariens n'en mangent pas. Donc 70 milliards de poulets. Il y a des archéologues qui pensent que quand on creusera dans le sol dans des millions d'années, ce qui définira notre époque, ce n'est pas les gratte-ciels ou l'iPhone ou la voiture, c'est la présence d'une quantité incroyable d'os de poulets. Et ce qui est complètement ouf, c'est que cette industrie massive du poulet, qui n'a pas d'équivalent dans d'autres viandes en termes d'échelle, elle est née après, en tout cas d'après ce que dit l'industrie du poulet elle-même, elle est née d'une erreur de livraison. Comme le raconte très bien le site américain Vox, dont je me suis largement inspiré pour cette chronique, il y a 100 ans exactement, en 1923, dans le Delaware, aux États-Unis, il y avait une dame qui s'appelait Cécile Steele. Cécile, elle était femme au foyer, mais elle était aussi fermière. Et elle avait notamment une basse-cour avec des poulets qu'elle élevait pour pondre des œufs. Et qu'elle tuait pour en vendre la viande quand il ne pondait plus assez d'œufs. C'était d'ailleurs typique de l'époque, ça. La majorité des fermiers, ils avaient des poulets en premier lieu, non pas pour leur viande, mais pour leurs œufs. Mais un jour, le fournisseur de poussins de Cécile, il lui a livré non pas 50 poussins, comme elle avait demandé, mais 500, 10 fois plus. Ce qui, pour l'époque, était gigantesque. Les plus grosses fermes, elles avaient maximum 300 poulets. Mais Cécile, elle a décidé de les garder. Elle les a entassés dans une grange de 23 mètres carrés, chauffée au charbon. Et quelques mois plus tard, elle s'en est suffisamment bien occupée pour qu'il en reste 400. Et ses poulets, elle a pu les vendre et elle s'est fait l'équivalent de 20 euros de marge par poulet, ce qui est gigantesque. Le poulet, à l'époque, coûtait encore cher. Son histoire, elle a vite été connue partout aux États-Unis et plein de gens ont commencé à l'imiter. 5 ans plus tard, il y avait des centaines de fermiers qui élevaient des poulets en grande quantité pour leur viande aux États-Unis. Et Cécile et son mari, ils étaient devenus riches. C'était, alors c'est pas non plus, il faut voir que c'était l'époque qui rendait la chose quand même davantage possible. Il y avait quand même des variables qui étaient réunies pour que ça explose. Les années 20, c'était une période de croissance économique, de malade mentale dans plein d'endroits, mais en particulier aux États-Unis. Donc il y avait de plus en plus de gens qui avaient de plus en plus d'argent pour acheter de la viande. Et il y avait aussi des avancées techniques, dans la réfrigération notamment, qui faisait qu'on pouvait transporter plus facilement la viande d'un endroit à un autre. Et enfin, il y a eu, en 1922, la découverte de la vitamine D. Et ça a permis une grande avancée sordide dans l'élevage du poulet. Parce que les poulets, à l'époque, ils avaient tendance à décéder beaucoup de rachitisme à cause d'un manque de vitamine D qui venait de l'absence de soleil puisqu'ils étaient élevés dans des granges. Et ça limitait le nombre de poulets qu'on pouvait élever simultanément. Mais à partir du moment où les fermiers ont pu donner des compléments de vitamine D à leurs poulets, eh ben, ils ont commencé à pouvoir en élever beaucoup plus. Alors depuis, la consommation de poulet dans le monde, elle n'a pas cessé d'augmenter. Dans la première moitié du XXe siècle, aux États-Unis, ça représentait 20% de la consommation de viande. Aujourd'hui, c'est 44%. En France, la consommation de poulet, elle a été multipliée par 3,5 depuis 1960, alors que la consommation de bœuf, elle a baissé de presque 20% sur la même période. Bon alors, tout ça aujourd'hui, ça atteint des proportions sordides.
On modifie les poulets pour qu'ils soient de plus en plus gros. Les poulets des années 50, ils faisaient 900 grammes en moyenne. 50 ans plus tard, ils faisaient 4,2 kg. Ils peuvent même plus tenir sur leurs pattes tellement ils sont gros. Les conditions d'élevage, elles sont horribles du point de vue de la souffrance animale. Sans compter les mégatonnes de caca de poulet. Les mégatonnes de caca de poulet qui contaminent les sols et qui créent des maladies respiratoires chez ceux qui y sont, confrontés. Il reste que Cécile, elle a, sans vraiment le vouloir, inventé l'une des méthodes agricoles qui a eu le plus de succès dans le monde ces derniers siècles. Mais elle n'en a pas beaucoup profité. Avec l'argent de leur poulet, Cécile et son mari, ils ont acheté un bateau. Et puis un jour, en 1940, ils étaient sur ce bateau avec des amis et le carburateur du bateau a explosé. Les amis avec lesquels ils étaient, ils ont survécu. Mais Cécile et son mari, ils sont morts immédiatement. C'est peut-être le dieu des poulets qui s'est vengé.
Bien triste histoire. Merci beaucoup, David.
C'est bien qu'il y ait un petit... C'est bien.
Le dieu des poulets.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube. Dailymotion est sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont vécu toute leur vie dans la même ville. Le peintre néerlandais Johannes Vermeer, qui a passé sa vie dans son petit village de Delft, qui l'a peint aussi. Puis Emily Dickinson, l'écrivaine inconnue de son vivant, qui a passé son temps dans sa ville d'Amherst, dans le Massachusetts, et dans sa maison surtout. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une famille entière qui n'a jamais bougé de Springfield.
Oui, une famille qui n'a jamais bougé tout court. Ils n'ont pas changé, pas vieilli, pas une ride sur leur teint jaune. Je vous raconte évidemment les Simpsons.
Ah, génial. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.